mai ce mois-ci, plusieurs avancées sont à noter dans le domaine de la santé. D'abord du nouveau sur les cellules souches.
En effet, dans la revue Genes and Development du 1er novembre, il est question d'une équipe de chercheurs français qui ont mis au point une technique pionnière pour renverser le vieillissement des cellules en fin de vie. Comme l'atteste l'article du Figaro du 31 octobre 2011 par Tristan Veil, une équipe de chercheurs de l'Institut de génomique fonctionnelle menée par Jean-Marc Lemaître a réussi à prélever des cellules d'un patient de 74 ans et à les ramener à l'état de cellules souches. Selon Libération du 1er novembre, ils ont réussi cet exploit en inoculant un cocktail de 6 facteurs génétiques dans des cellules après qu'elles aient atteint ce stade de sénescence, c'est-à-dire lorsque les cellules ne peuvent plus se reproduire à l'identique. Les cellules âgées ont été reprogrammées in vitro en cellules souches pluripotentes, c'est-à-dire qu'elles peuvent se différencier à nouveau en cellules de tout type, neurones, cellules cardiaques, de peau, de foie. Libération et Le Figaro mettent tous deux en valeur le fait que cette technique pourrait à la fois servir à étudier en détail les mécanismes du vieillissement prématuré, comme la progéria, la trisomie 21 ou le syndrome de Vermeer, et être l'avenir de la médecine régénératrice. Le Monde, Le Figaro et Libération désignent tous trois cette trouvaille comme étant une cure de jouvence, Le Figaro allant même jusqu'à l'interrogation « un pas de plus vers l'immortalité ?» Autre sujet, Caroline, les conséquences de l'oxyde d'éthylène.
Eh oui, Le Monde du samedi 19 novembre, titre « Une enquête ouverte sur la stérilisation des biberons ». Le journaliste Paul Ben Ki-moon indique que le ministère de la Santé veut que le matériel stérilisé à l'oxyde d'éthylène soit retiré au plus vite des maternités. Des biberons et tétines sont en effet stérilisés par un gaz cancérigène. Malgré l'interdiction, ce procédé est largement utilisé dans les établissements de santé. Les informations révélées par le Nouvel Observateur ont incité le ministère de la Santé à ouvrir une enquête administrative. La priorité de Xavier Bertrand est, dit-il, de retirer ces matériaux dans les plus brefs délais. En effet, le Nouvel Observateur du 17 novembre 2011 titre « Ces bébés qu'on empoisonne ». Cette enquête réalisée par Fabrice Nicolino et Guillaume Mallory révèle cette illégalité qui est une aberration sanitaire. Ils reviennent sur l'histoire de ce gaz qui avant fut utilisé en tant que détergent et pendant la guerre en tant qu'explosif. Mais comment fonctionne-t-il? Le journal nous l'explique à travers l'interview de M. Pico André, premier directeur de recherche à l'unité de prévention du risque chimique. Ce gaz a la particularité de pénétrer en profondeur dans la structure plastique et de s'en extraire très lentement. Le caoutchouc, quant à lui, piège le gaz qui, même ventilé, présente des particules résistantes que l'on retrouve notamment sur les tétines. C'est un réactif chimique extrêmement puissant, insiste M. Pico. Il s'attaque au noyau des grosses molécules, globules blancs et rouges, et peut provoquer des mutations génétiques en modifiant l'ADN. Il serait, selon le chercheur, 1 million de fois plus actif que le bisphénol A. Il a donc des conséquences graves sur l'organisme, comme la leucémie, les cancers, les fausses couches, qui pour certains peuvent conduire à la mort. Cette enquête révèle aussi pourquoi les industries continuent à utiliser ce mode de stérilisation. Ces derniers ne s'en cachent pas. Le groupe belge Beldigo et français Care affichent clairement leur utilisation du gaz cancérigène dans leur chaîne de production. Ils indiquent même avoir fourni en 2010 4 millions de tétines aux hôpitaux et maternités de France. Quant aux grands noms de l'industrie comme Gigos de Nestlé, Bledina de Danone et Multimel de Lactel, ils ne souhaitent pas répondre ou sont très vagues sur le sujet. Ce gaz serait efficace à 100%, ce qui enlève la menace des infections nosocomiales qui hantent les hôpitaux. Mais ce n'est pas la seule raison, il serait également moins cher et plus simple d'utilisation. C'est donc pour une histoire de rentabilité. Ces deux raisons sont-elles suffisantes pour permettre aux industries d'enfreindre la réglementation? La question ne se pose même pas. La logique scientifique interdit de faire courir le moindre risque aux populations et encore moins aux nouveau-nés. Nous devrions donc continuer à suivre l'exemple des Suédois, qui certes ont été les premiers à utiliser ce gaz dans le monde médical, mais qui ont aussi été les premiers à le retirer pour tout type d'utilisation. Ensuite, Manon, des avancées dans la guerre anti-tabac.
Oui, selon un article publié le 10 novembre sur BBC News, une loi australienne vient de passer au Sénat. Elle supprimerait toute couleur ou marque des paquets de cigarettes pour les remplacer par des paquets en carton vert, couverts d'images et d'avertissements sur les dangers du tabac. Cette loi pourrait entrer en vigueur en décembre 2012, mais les compagnies de tabac ont déclaré qu'elles allaient y résister fortement. Le gouvernement australien a déclaré qu'il ne se laisserait pas intimider. L'Australie serait alors le premier pays à appliquer une telle loi. Cas étrange, la varicelle aux États-Unis.
L'Express a publié un article de Caroline Politi le 11 novembre 2011 faisant état d'un phénomène étrange aux États-Unis. Pour immuniser naturellement les enfants et éviter la vaccination, des parents échangent des objets porteurs du germe de la varicelle, tétines, doudous, vêtements. Ils organiseraient même des fêtes en s'appuyant sur des réseaux sociaux qui donnent la liste des soirées varicelle près de chez vous. Ce procédé s'étend même à la rougeole, aux oreillons ou à la rubéole. Le procureur du Tennessee a rappelé aux familles qu'en plus d'être parfaitement illégale, cette pratique est dangereuse puisque l'hépatite ou la mononucléose se transmettent également par la salive. Mais voyons maintenant un espoir pour les familles des malades en état végétatif.
Dans un article du Figaro du 10 novembre 2011, Anne Prigent montre qu'une simple électroencéphalographie permettrait de déterminer si un patient en état végétatif est conscient ou non. L'électroencéphalographie est l'examen qui permet d'enregistrer l'activité électrique spontanée des neurones du cerveau. L'étude du Lancet publiée le 9 novembre 2011 le prouve. Après avoir placé des électrodes sur la tête de 16 personnes en état végétatif, on a demandé aux patients d'imaginer des mouvements de leurs mains droites et de leurs orteils. Chez 3 patients, des enregistrements comparables à ceux de sujets sains ont été effectués, prouvant ainsi un état de conscience, alors que l'état clinique les avait diagnostiqués inconscients. Le professeur Nakache, neurologue dans un hôpital à Paris, rappelle néanmoins que ces malades sont généralement lourdement handicapés et que leur état de conscience n'a certainement rien à voir avec le nôtre. C'est confirmé, le silicone est mauvais pour le cœur.
En effet, l'Express du 10 novembre 2011 présente 3 cas de problèmes pulmonaires suite à des injections de silicone. Ils ont été présentés lors du congrès CHEST 2011 le 22 octobre à Honolulu. Les patients en question souffraient de tachycardie et de toux. Les plus atteints avaient contracté des embolies pulmonaires et une insuffisance cardiaque. Ensuite, du riz pour accélérer la guérison.
L'Express du 10 novembre 2011 traite d'une équipe chinoise qui vient de mettre au point un riz OGM, porteur d'un gène qui déclenche la production d'albumine, une protéine humaine qui permet de traiter les brûlures ou contre la cirrhose. Ce riz remplirait ainsi les mêmes fonctions, sans risque de transmission de virus comme le VIH ou l'hépatite. Sujet difficile, Caroline, maltraitance à l'hôpital.
Dans un article de l'Express publié le 10 novembre est résumé un rapport de l'Inspection générale des affaires sociales que le Parisien a pu se procurer. Il fait état de conditions d'accueil indignes dans l'hôpital psychiatrique de Clermont dans l'Oise. On y déplore ainsi une maltraitance institutionnelle et des pratiques soignantes défaillantes. L'état physique et vestimentaire des patients laisserait à désirer. Ils seraient dans un état d'enfermement en permanence et les toilettes seraient inaccessibles la nuit. Les médecins auraient une assiduité trop faible et des absences non justifiées, ainsi qu'un laxisme en général. Ce rapport rédigé fin 2010 n'a pourtant jamais été publié. Selon le Parisien, les autorités craignent l'impact social qu'il aurait pu avoir sur l'un des principaux employeurs de la région de l'Oise. La directrice a finalement été forcée au départ en mai dernier. Enfin, Manon, un autre problème concernant les personnes âgées.
Un article du Sud-Ouest du samedi 19 novembre 2011 rédigé par Didier Focard traite de l'incendie qui a eu lieu dans la maison de retraite Les Flots à La Rochefoucauld. 3 résidents ont péri dans les flammes. Un mégot de cigarette mal éteint serait à l'origine de l'incendie qui a eu lieu le 18 novembre. En plus des 3 morts, il y eut 11 blessés. Ce sont 2 AMP, aide médico-psychologique, qui ont donné l'alerte. Les pompiers sont arrivés 20 minutes plus tard. En vue de cet incident, on peut se demander s'il est approprié de laisser les pensionnaires fumer dans leur chambre. La solution serait-elle de fumer dans un espace protégé ?